France Musique. Musique Matin, le 7h30, 9h de Gabriel Olivier Aguillon.
Et avec moi en studio à mes côtés, Thibaut Noali, bonjour.
Bonjour Gabriel.
Vous êtes violoniste, fondateur entre autres de votre ensemble Les Accents. Vous êtes avec nous ce matin avant vos concerts à la Chaise Dieu. Ce samedi 21 août pour un trésor sacré de Scarlatti, nous en parlerons. Et puis le 29 autour de Bach et Rameau. Festival de la Chaise Dieu que vous connaissez bien. Vous y êtes même en résidence, Thibaut Noali.
Alors je ne sais pas si c'est une résidence de manière officielle, mais c'est vrai qu'on a entamé,
on y est beaucoup
depuis 2017, qui était donc le premier concert de l'ensemble, autour déjà du répertoire de Scarlatti et de Vivaldi à cette occasion. Et en 2019, on a entamé un cycle d'oratorio autour de la musique de Scarlatti. On a commencé par le Martyre de Sainte Théodosie en 2019. On devait donner ce Sainte Filippo Neri l'année dernière. Bon, ça ne s'est pas fait parce que le festival a été annulé. Mmh. Et donc, il a été reporté cette année.
Voilà. Et vous étiez en mars aussi avec la soprano Blandine Stafskiewicz.
On a fait une résidence justement un peu pour préparer un peu tout le répertoire qu'on fait aussi cet été, c'est-à-dire le répertoire baroque romain.
Voilà. D'accord, du début du XVIIIe siècle.
Tout à fait.
Et qu'est-ce que vous travaillez ensemble? C'est-à-dire vous jouez, mais est-ce que vous fouillez aussi? C'est des recherches musicologiques
oui,
au-delà du jeu?
Oui, il y a les deux. C'est bien sûr une recherche d'interprétation, d'esthétique, mais en même temps de répertoire. Parce que la résidence au mois de mars, elle nous a permis d'explorer ce répertoire de l'oratorio en allant chercher des raretés, en faisant des créations même en première mondiale de certains airs qui n'avaient jamais été rejoués depuis le XVIIIe. Donc voilà, on a fait beaucoup de recherches, on s'est beaucoup concentré sur ce répertoire-là.
En parlant d'oratorio, vous donnerez donc le 21 à 21h l'oratorio San Filippo Neri dont vous parliez à l'instant, titre du concert Trésor sacré de Scarlatti. Alors ce San Filippo Neri, qui était-il?
Alors c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas vraiment le nom de San Filippo Neri, qui est très populaire en Italie. C'est donc un saint d'une période récente, puisqu'il il est né, il a vécu, il est mort au XVIe siècle. En Italie, c'était un Florentin qui a quitté Florence à un âge assez jeune, on pense entre 15 et 18 ans, et qui est venu s'établir à Rome, et qui très vite s'est mis en fait à être il s'est mis à aider les malades, les pauvres. Il a fondé aussi une école pour des enfants pauvres, mais qui avaient des vraies capacités. Et c'est comme ça que sa mission a commencé. Sa vocation est venue aussi après, une vocation très 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 forte et très 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 une foi très 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 puissante, qui est arrivée d'un coup.
Est-ce qu'on sait pourquoi Scarlatti s'est intéressé à c'est lui qui a fondé la congrégation de l'oratoire. Est-ce qu'on sait pourquoi Scarlatti, comment ça s'est fait?
Alors en fait, c'était déjà au XVIIIe, c'était une figure majeure de l'histoire romaine, parce que donc il a créé la congrégation de l'oratoire à Rome. Et comme à cette époque, quand Scarlatti arrive au début du XVIIIe, on ne donne pas d'opéra parce que l'opéra est banni par le pape, par un décret papal. On se concentre sur la musique sacrée et notamment l'oratorio.
L'oratorio, c'est une composition musicale sur un texte religieux, mais il n'y a pas de mise en scène. Il y a quand même un côté très dramatique.
Voilà, il y a un côté tout à fait dramatique qu'on peut trouver dans l'opéra, mais c'est vrai que le sujet est un sujet en général biblique, ou de la vie d'un saint, d'une martyre. Et l'histoire de la mise en scène, c'est un peu plus complexe, parce qu'il y a quand même eu des représentations qui mêlaient des éléments de décor, des costumes. Enfin, ça pouvait être assez courant. C'était une forme qu'on donnait souvent chez les prélats, les grands prélats romains, qui produisaient dans leur palais de sorte des concerts privés, dans lesquels, qui n'étaient pas ouverts au grand public, mais et qui pouvait produire quelques spectacles un petit peu mis en scène. Et Sainte Filippo Neri était une telle image du catholicisme à l'époque à Rome que, en fait, les grands prélats romains étaient souvent ceux qui écrivaient les livrets des oratorios, qui écrivaient l'histoire. Mmh. Et le cardinal Ottoboni, qui était un immense prélat romain extrêmement riche et un grand lettré, c'est lui qui a écrit en fait ce livret sur la vie de Sainte Filippo Neri.
San Filippo Neri que vous donnerez donc ce samedi. Scarlatti que vous interprétez régulièrement, on en a parlé, il y a eu donc cet oratorio en 2019 à la Chaise Dieu, Théodosie.
Le martyr de Sainte Théodosie.
Martyr de Sainte Théodosie, pardon, de Tyr, et donc un disque paru ensuite chez Aparté, une très belle critique, on en écoute un extrait.
Thank you.
Emmanuel de Negri, Emiliano González Toro, Renato Dolcini et Antea Pichanik avec Les Accents, dirigé par Thibaut Noali, notre invité dans cet extrait du Martyr de Sainte Théodosie de Scarlatti. Thibaut Noali, la voix d'Antea Pichanik, que nous retrouverons justement ce samedi pour la production que vous nous donnerez d'un autre oratorio de Scarlatti dont nous parlions, San Filippo Neri. Elle est seule dans les deux projets que vous retrouvez en,
oui, voilà,
en commun.
Oui, c'est la soliste qui est en commun des deux projets. Ouais,
il y aura qui d'autre?
Il y aura donc Blandine Staskevich, Paul-Antoine Benos et Anicio Zordi Giustiniani. Voilà, dans le rôle titre, lui.
Alors, cet oratorio là que vous prévoyez de donner, est-ce que vous prévoyez également de l'enregistrer au disque sur place en l'abbatiale Saint-Robert de la Chaise-Dieu?
Alors non, on n'a pas le projet de l'enregistrer tout de suite. Je pense que ça viendra dans les années qui viennent, mais pour l'instant non, on n'en a pas de projet de disque autour du San Filippo.
Mais vous me disiez que cette acoustique, cet endroit pour ces oratorios de Scarlatti peut être...
Ah oui, bien sûr, oui, l'abbatiale Saint-Robert, elle sonne magnifiquement bien. Ça serait vraiment un lieu idéal d'enregistrement de toute façon. Ouais.
Alors, le répertoire sacré italien, Thibaut Noali, on l'a vu, des oratorios, des motets aussi que vous avez enregistrés, ça constitue un peu la clé de voûte de votre projet. Vous avez accompagné justement cette contralto Antea Pichanik sur son projet de disque, entre autres des motets italiens de la deuxième moitié du XVIIe ou XVIIIe.
Alors, c'est des motets plutôt de début XVIIIe napolitain.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et on sent aussi justement dans la musique de Scarlatti, la voix, elle semble presque un instrument. Il y a une sophistication harmonique. Et puis en même temps quelque chose de très spirituel, très intense, tout ça dans la musique de Scarlatti.
Exactement, moi je trouve que à la comparaison de ses contemporains, que ce soit l'école napolitaine de chant ou même l'école vénitienne avec Vivaldi, Scarlatti tonne totalement à part, comme vous le dites, c'est un langage extrêmement à la fois qui s'inclut dans les instruments, presque un peu très contre-empathique aussi à certains moments, une harmonie très poussée. Je continue à dire que ce que Bach a été pour l'Allemagne, Scarlatti a été pour l'Italie.
Ici, en tout cas dans le disque d'Antea Pichanik que vous accompagnez avec votre ensemble Les Accents, ce sont des motets à une voix en alternance, voilà. Récitatif et air. Est-ce qu'il y en a aussi des motets pour plusieurs voix?
Oui, il y a aussi beaucoup de motets à deux, trois, voire même quatre voix d'ailleurs.
Et il en a écrit toute sa vie, Scarlatti?
Alors il en a écrit régulièrement parce que en fait Scarlatti, comme la plupart des musiciens un peu connus de l'époque, étaient ce qu'on appelle des musiciens itinérants, c'est-à-dire que ils n'étaient pas vraiment fixés à une seule ville toute leur vie, donc il parcourait pour Scarlatti l'essentiel de l'Italie, et à chaque fois qu'il arrivait, que ce soit à Rome ou que ce soit à Naples ou que ce soit même à Florence, il écrivait aussi de la musique, des motets très régulièrement, donc c'est vrai qu'il en a écrit tout au long de sa vie.
Vous dites qu'il est un peu à part, et qui sont quand même ses successeurs dans son esthétique, Thibaut Noali, vous diriez quoi?
Ah, c'est compliqué ça, l'héritage de Scarlatti, parce que c'est vrai, parce que, comment dire, quand Scarlatti disparaît dans les années 1720, tout d'un coup il y a une sorte d'ouragan en Italie, qui est l'école napolitaine de chant, et les grands castrats qui la représentent, ouais, qui sont donc Farinelli, Caffarelli, enfin tous ces phénomènes vocaux qui vont envahir l'Italie partout, et il y a une vogue de la musique napolitaine qui est vraiment une musique plutôt centrée sur l'art du chant, le legato, le bel canto, et j'allais dire la puissance de construction, par exemple de la musique de Scarlatti, elle disparaît un peu. On préfère privilégier la beauté d'une voix, la beauté d'une mélodie, et tout ça va envahir toute l'Italie. Et donc je peux pas dire qu'il y a eu un héritage direct après Scarlatti, parce que le phénomène napolitain a tellement subjugué toute l'Italie que toutes les villes se sont mis un peu à produire des opéras de Porpora, de Hasse, de Leonardo Vinci, Leonardo Leo, enfin toute cette école-là, qui était quand même assez éloignée, je trouve, de la puissance de Scarlatti.
Alors Scarlatti, oui, le 21 août dans le cadre du Festival de la Chaise-Dieu, mais il y a aussi un deuxième concert que vous donnerez le 29 août, une symphonie imaginaire.
Alors ça, c'est avec les musiciens du Louvre, dirigé par Marc Minkowski.
Vous serez donc l'un des musiciens.
Voilà, je suis le violon solo des musiciens du Louvre depuis maintenant 16 ans, je crois. Et en complément de programme, il y a le double concerto pour deux violons de Bach avec Nicolas Mazzolini.
Alors, depuis 2006, effectivement, vous êtes violon solo des musiciens du Louvre Grenoble sous la direction de Marc Minkowski. Et puis vous avez fondé, Thibaut Noali, votre ensemble, Les Accents, en 2014, poussé à juste titre par le Festival de musique baroque de Beaune. Quel était le projet initial? Et puis surtout, quel regard avez-vous aujourd'hui, 7 ans après cette création?
Ça a été une aventure très intense depuis la création parce qu'on a eu, on a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup d'occasions de créer, de recréer des œuvres. C'est vrai que l'envie de départ, elle était réelle de mon côté, bien sûr. Et puis j'ai été beaucoup aidé par Anne Blanchard et Kader Assisi du Festival d'Opéra Baroque de Beaune à la création de l'ensemble. Et c'est vrai que moi, mon envie première, c'était vraiment l'oratorio, hein, de redonner un peu une image un peu plus visible à ce répertoire, l'oratorio baroque italien. Donc on a créé justement la première année un oratorio de Porpora, et en même temps l'opéra baroque en général m'intéresse beaucoup aussi, donc on a fait aussi beaucoup d'opéras en concert et d'opéras italiens de l'époque baroque.
Et puis il y a les concertos pour violon, on en parlait là pour ce programme du 29 août que vous donnerez vous en tant que violoniste, et puis ce disque Bach & Co que vous avez sorti avec les accents il y a quelques temps. Quels sont les points communs justement qu'on va retrouver dans ce disque Bach & Co et donc ses contemporains?
Alors, le projet Bach & Co, c'était justement l'idée de départ pour moi, c'était de montrer, pareil, un petit peu comme on disait avec Scarlatti et contemporains, c'est de montrer à quel point la personnalité de Bach est unique en son temps. Voilà. Et le projet, il est né parce que je voulais mettre en parallèle toute une génération de compositeurs et montrer un petit peu les caractéristiques de chacun.
Oui, mais sans non plus montrer que Bach est au-dessus des autres.
Alors, alors je dirais pas au-dessus des autres, je dirais unique. Et ce qui vraiment le démarque des autres, c'est qu'il a un univers tellement à part qu'on peut l'identifier tout de suite en écoutant n'importe quel concerto, alors que certains autres concertos, qui sont aussi des très bons concertos, on pourrait hésiter entre Heinichen, Telemann, Fasch à certains moments. Et voilà, c'était aussi de recréer un contexte historique et de l'époque.
Alors, on va pas écouter Bach, mais Telemann. À 8h48 sur France Musique, l'Allegro, le premier mouvement du concerto pour deux violons en ut majeur TWV 52 de Georg Friedrich Telemann avec Thibaut Noali et Claire Sotovia au violon solo, accompagné par l'ensemble Les Accents. Thibaut Noali, notre invité ce matin avec une très riche actualité puisque vous serez les 21 et 29 août au Festival de la Chaise Dieu, mais également cet automne, Thibaut Noali dans plein de concerts différents, y compris un autre oratorio de Scarlatti, la Giuditta au Festival d'automne en collaboration avec l'Académie de l'Opéra de Paris. Et puis évidemment, Les Accents, ça se sera le 23 octobre. Et puis vous partirez à Moscou également, Thibaut Noali, pour oui, Handel cette
pour
fois-ci.
Cette fois, un autre oratorio, un tube, un chef-d'œuvre, le Il Trionfo del Tempo de Handel, avec une très belle distribution qu'on fera donc à Moscou et à la Philharmonie de Paris le 11 octobre.
Avec Emiliano González Toro, que vous retrouverez.
Voilà, avec Yulia Lejnieva, Anna Maria Labine, Carlo Vistoli, enfin une distribution magnifique.
Et Thibaut Noali, il y a eu également des projets avortés, y compris celui du Bourgeois Gentilhomme, évidemment, à cause du Covid. Bourgeois Gentilhomme, cette comédie-ballet de Lully que vous deviez donner l'an dernier, et puis ça a été plusieurs fois annulé. Ça va être repris, quand même, vous
oui,
me disiez, à Marseille
on y
et
arrive,
à Bordeaux.
On y arrive. Il y a plusieurs reprises déjà à l'automne, il y a Marseille. Après, il y aura donc quasiment tout le mois de janvier à l'Opéra de Bordeaux, pour la dernière saison de Marc Minkowski. Et donc voilà, on est content de pouvoir reprendre ce très beau projet.
Avec Jérôme Deschamps, donc à la mise en scène. On est loin de l'oratorio, là, dans le sujet. Décor, costumes, rebondissements, ballet, turquerie. Vous êtes friande, touchée à tout. Comment travaillez-vous différemment?
Travailler avec quelqu'un comme Jérôme, avec son univers. Enfin, Moi, je suis très fan de Jérôme Deschamps, de tous les spectacles qu'il a fait. Donc, c'est vrai que c'est un bonheur. En plus, alors, ce qui est aussi différent quand on est musicien et aussi dans la musique ancienne, c'est que tout d'un coup, on découvre ce que c'est vraiment l'aspect de l'esprit d'une troupe. Parce que quand on travaille avec une troupe de théâtre, c'est encore une synergie différente. Ouais. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous aussi.
Et puis, en parlant de troupe, mais alors là, carrément, pas du tout le même répertoire. Vous faites partie du quintet Saint-Onia. En l'occurrence, là, je parlais du répertoire très différent. C'est Olivier Greff, le quintet Saint-Onia, avec qui vous êtes. Il y a également Stéphanie Morali, Hélène de Saint, Patrick Langot, Romain David. Vous avez joué son quintet pour piano d'Olivier Greff, A Tale of the World, un quintet qui date de 1994. Vous l'avez gravé, c'est une première mondiale au disque,
tout récent. Tout à fait, oui. C'était une œuvre très intense, extrêmement. C'était une expérience extrêmement enrichissante musicalement et même humainement. Et on est très heureux de pouvoir donner la création parisienne de ce quintet, qui n'a jamais été joué à Paris.
C'est très bientôt,
voilà,
le 2 octobre.
Ce sera le 2 octobre à l'auditorium de la rue de Madrid. Voilà.
Dans le 8e à Paris. Le disque est sorti pour les 20 ans de la disparition de ce grand compositeur, Olivier Greff. Vous étiez proche de lui, vous l'avez connu. Je sais que vous avez joué devant lui son 4e quatuor.
Alors, il se trouve qu'en fait, je suis l'un des. Pas tout à fait le seul, mais je suis l'un des musiciens qui ne l'a pas connu, parce que moi, je suis arrivé dans le quintet de Saint-Onia après qu'ils aient créé justement le quatuor Ulysse. Et en fait, je ne l'ai pas rencontré parce qu'ils ont travaillé avec lui sur la création. Et puis, Olivier est mort cette année-là. Et en fait, moi, je ne l'ai pas connu.
Ouais. C'est un style très visionnaire, sa musique.
Ah oui, c'est pareil. Je trouve que c'est finalement à toutes les générations, toutes les époques, il y a des personnalités qui ressortent, que ce soit Scarlatti, que ce soit Bach en Allemagne. Et je trouve que Olivier Greff est un personnage et une personnalité tellement unique que sa musique l'est aussi. C'est vraiment un grand, grand compositeur pour moi.
Merci beaucoup, cher Thibaut Noali, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle vos différents concerts, en tout cas les plus proches, le 21 août, pour cet oratorio San Filippo Neri que vous donnerez avec votre ensemble Les Accents. Et puis cette très belle distribution, ce sera ce samedi 21 à 21h. Et puis également vous, en tant que violoniste, dans le concert du 29 août, une symphonie imaginaire avec les musiciens du Louvre, dirigée par Marc Minkowski. Thibaut Noali, on va se quitter avec la question que nous posons à chacun de nos invités, avant d'écouter, de vous écouter encore. Vous partiriez où, tout de suite, avec quelle musique et avec qui? Dites-nous tout.
Alors justement, ça va paraître un peu bizarre, mais comme moi je
Mais ça paraît souvent bizarre,
voilà, vos réponses. Comme je vis à Paris depuis longtemps, mais que j'y suis peu avec les concerts et les tournées, en fait, depuis mon adolescence, je suis un grand fan de la littérature et des œuvres de Patrick Modiano, je passerais bien une journée à Paris à déambuler Patrick Modiano et qui me fasse découvrir le Paris qui l'a marqué, quoi.
Et peut-être les musiques qu'il aime.
Et les musiques qu'il aime, pourquoi pas. Ou même sans musique, juste le bruit de la ville, quoi. Le son de Paris.
C'était pas bizarre du tout. Voilà. Ça nous va très bien. Merci beaucoup, Thibaut Noali. Très bon concert à vous. Bel été.
Merci, bel été à vous. Au revoir.
Ces fameux sauvages extraits des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, arrangés pour deux violons baroques à l'époque de Louis XV par ce compositeur qui était en France, Giovanni Pietro Ghignone, interprétés lors du festival France Musique l'été dernier, alors qu'il n'y avait peu de concerts à part ici à Radio France, Thibaut Noali et Mario Konaka au violon baroque. Eh bien, c'est avec Rameau que nous nous quittons aujourd'hui pour mieux se retrouver demain. La réponse à notre jeu ce matin, il fallait répondre que la symphonie numéro 86 était l'une des six symphonies parisiennes de Joseph Haydn. Merci beaucoup d'avoir répondu largement, nombreusement ce matin. Il fallait des gagnants. Il y en a trois. Marisia de Gourdon, Adrien de Paris et Esther de Urschenheim. Bravo à vous. Merci à toute l'équipe de Musique Matin, Valentin Carpentier et Margot Muller qui m'aident à préparer cette émission. Taïsia Froidure à la réalisation. Et avec nous ce matin à la technique, Maxime de Peretti et Yuku Diego. Ak Lopez, demain nous recevons le joueur de kora Balaké Sissoko qui viendra avec son instrument nous jouer quelque chose dans le studio. Ce sera à 8h30 et je crois que nous avons déjà hâte d'être demain et hâte aussi plus proche dans le temps d'écouter la belle et unique voix d'Anne Montaron. Et votre programme musical, c'est jusqu'à midi.
Bonjour. Là, vous Anne. Exagérez
ah non,
un
pas
petit
du tout.
Peu, Gabriel.
C'est très sincère.
En tout cas, merci pour ces beaux programmes et ces beaux invités et superbe interprétation de la musique de Rameau à l'instant. À demain 7h30, Gabriel.
Je passe le message. Merci, bonne émission.
Belle journée, merci.
À réécouter sur francemusique.fr.